Vous écoutez, on lit pour vous.
Des records de température qui donnent du fil à retordre aux climatologues. Un texte de Nick Perry de l'agence France-Presse paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Que la planète se réchauffe depuis des décennies à cause des gaz à effet de serre émis par l'humanité, c'est entendu. Mais que les températures mondiales aient battu tous les records et de loin en 2023, puis encore en 2024, voilà qui donne du fil à retordre aux climatologues. La communauté scientifique l'a démontré. Notre combustion des énergies fossiles et la destruction des espaces naturels sont responsables du réchauffement de long terme du climat, dont la variabilité naturelle influence aussi les températures d'une année à l'autre. Néanmoins, les causes d'une surchauffe aussi forte que celle des années 2023-2024 font l'objet d'un grand débat parmi les climatologues, certains émettant l'idée que le climat se réchauffe différemment ou plus vite qu'attendu. Plusieurs hypothèses alimentent la recherche. Moins de nuages et donc moins de réflexion des rayons solaires, un recul de la pollution de l'air, elle aussi réflectrice du soleil, et des puits de carbone naturels, océans et forêts en tête, qui absorbent moins de CO2. Les études se multiplient, mais il faudra encore un an ou deux pour établir l'influence précise de chaque facteur. J'aimerais savoir pourquoi 2023 et 2024 ont enchaîné les records. Mais je ne le sais pas, a reconnu en novembre 2024 Gavin Schmidt, directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA. Nous sommes encore en train d'évaluer et de déterminer si nous assistons à un changement dans le fonctionnement du système climatique. Terrain inconnu. Pour le climatologue Richard Hallen, de l'Université de Reading au Royaume-Uni, la chaleur mondiale record de ces deux dernières années a propulsé la planète en terrain inconnu, a-t-il déclaré à l'AFP. Ce qui s'est produit est exceptionnel, à la limite de ce que nous pouvions attendre sur la base des modèles climatiques existants, a déclaré Sonia Seneviratne de l'ETH Zurich, en Suisse. Néanmoins, la tendance générale au réchauffement à long terme n'est pas inattendue, compte tenu de la quantité d'énergie fossile brûlée, explique la climatologue à l'AFP. L'humanité n'a pas encore entamé le déclin des émissions, même si le pic se rapproche. La variabilité naturelle du climat pourrait expliquer en partie l'observation. L'année 2023 a en effet été précédée par le rare enchaînement de trois années successives de l'épisode naturel La Niña, qui a masqué une partie du réchauffement en intensifiant l'absorption de l'excès de chaleur par les océans. Lorsqu'El Niño, le phénomène opposé, a pris le relais en 2023, avec une intensité très forte, cette énergie a été restituée, poussant le thermomètre mondial à des niveaux inconnus depuis 100 000 ans, selon les paléoclimatologues. Sauf que le pic d'El Niño, en janvier 2023, est passé depuis longtemps et que la chaleur perdure. Le refroidissement est très lent, reconnaît le climatologue Robert Vautard. On reste dans les marges relativement attendues des projections. Mais si les températures ne redescendent pas plus franchement en 2025, il faudra se poser des questions, avertit ce haut responsable du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Déclin des nuages. Parmi les pistes d'explication se trouve l'obligation en 2020 de passer à des carburants plus propres pour le transport maritime. Cette mesure a réduit les émissions de soufre qui augmentaient la réflexion de la lumière du soleil par la mer et les nuages et participaient à refroidir le climat. En décembre 2024, une étude évaluée par des pairs a ainsi postulé que le déclin des nuages de basse altitude a permis à davantage de chaleur d'atteindre la surface du globe. Les cycles solaires ou l'activité volcanique ont aussi pu jouer un rôle. Toutes ces hypothèses ont alimenté les débats en décembre 2024 lors d'une conférence organisée par Gavin Schmidt à l'American Geophysical Union. Certains craignent toutefois que les scientifiques passent à côté d'autres facteurs ou tardent à détecter un emballement du réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas exclure que d'autres facteurs aient amplifié les températures. Le verdict n'est pas encore tombé, avertit Sonia Seneviratne. En 2023, les puits de carbone ont subi un affaiblissement sans précédent, selon une vaste étude préliminaire publiée à l'été. La toundra arctique émet désormais plus de CO2 qu'elle n'en stocke, a rapporté en décembre 2024 l'observatoire américain NOAA. Et les océans, premier puits de carbone et régulateur primordial du climat, se réchauffent à un rythme que les scientifiques ne peuvent complètement expliquer, selon Johan Rockström de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat. PIK. Serait-ce le premier signe d'une perte de résilience de la planète? Nous ne pouvons pas l'exclure, a-t-il déclaré en novembre 2024. C'était des records de température qui donnent du fil à retordre aux climatologues. Un texte de Nick Perry de l'agence France-Presse paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.
Des défis sportifs en continu, une bonne idée? Un texte de Samuel Larochelle, paru le 5 janvier 2025 dans la presse. Pendant 100 jours consécutifs, Matt Dupont a joggué ou s'est entraîné au gym sans journée de congé. Véronique Marchand a fait de même en mariant la marche, le karaté et la musculation. Les deux sportifs ont participé à des défis sportifs en continu, une pratique qui peut se révéler aussi bénéfique que dommageable. La kinésiologue Jasmine Paquin voyait ce type de défi dans les gyms il y a 10 ans déjà, mais leur médiatisation a changé la donne depuis. Les influenceurs proposent certaines formules et on voit davantage nos amis partager leurs défis sur les réseaux sociaux, ce qui nous pousse parfois à les imiter, explique-t-elle. Matt Dupont a justement été inspiré par le défi d'une amie alors qu'il bougeait déjà 5 ou 6 fois par semaine. « J'ai eu envie de faire 100 jours pour me dépasser, dit-il. Je courais 25 kilomètres sur 3 jours. Je m'entraînais au gym 3 jours et je consacrais la 7e journée au renforcement, à la méditation ou à une course supplémentaire. » La vie de Véronique Marchand est minutieusement huilée. 10 000 pas, 45 minutes de gym ou de karaté, sans oublier les 2 litres d'eau qu'elle veut boire quotidiennement. Elle souhaite se prouver qu'elle peut être aussi disciplinée que lorsqu'elle était plus jeune, malgré une vie professionnelle remplie, son conjoint et ses jumelles de 10 ans. « Je m'étais perdue de vue pendant un certain temps, affirme-t-elle. J'avais besoin de retrouver un mode de vie plus sain. » Un test d'engagement. Le psychologue sportif Bruno Ouellette a lui-même développé des outils de 30 jours pour favoriser l'acquisition de diverses compétences, comme la connaissance de soi et de ses valeurs ou la gestion de ses émotions. C'est difficile, 30 jours, dit Bruno Ouellette. Souvent, les gens lâchent après 1 ou 2 semaines. Le défi est donc un test d'engagement qui amène une cible précise au cerveau. Il identifie 3 leviers de motivation intrinsèque pour affronter de tels défis. L'autonomie, car on le fait par choix, le besoin de compétences qui s'obtient en s'améliorant jour après jour, et le sentiment d'appartenance si le défi est réalisé en groupe. Le lien social contribue positivement à l'atteinte de l'objectif. sans oublier le facteur extrinsèque de la reconnaissance lorsqu'on montre nos réalisations à notre entourage. On veut bien paraître aux yeux des autres, aller chercher des pouces en l'air et de la validation, résume M. Ouellet. Constance et récupération. Le défi peut donner du carburant, mais les risques sont bien présents. Je ne vois pas d'enjeu pour la santé physique si on parle de 30 jours de yoga, quoique la pratique nord-américaine soit plus exigeante. Mais pour les autres disciplines, ce n'est pas une bonne idée de ne pas s'offrir de pause, résume Jasmine Paquin. La kinésiologue rappelle que les périodes de récupération permettent au corps de s'adapter. Puisque plusieurs personnes étaient moins actives avant de faire ces défis, leur corps n'est pas toujours prêt. Ça prend beaucoup d'expérience en activité physique pour passer au travers d'une longue période. Elle suggère de varier les activités, le niveau d'intensité et la durée. D'être attentif à l'apparition de douleurs soudaines et surtout de prévoir des congés. On peut faire 30 jours de sport répartis sur 40 jours. C'est probablement une meilleure idée de s'offrir des pauses durant notre séquence. Matt Dupont, qui est musicien professionnel, a trouvé les 50 derniers jours sur 100 plus difficiles, mais n'a pas écouté son corps qui lui demandait des pauses. « Je me poussais, dit-il, à faire un minimum chaque jour, et je savais qu'en le faisant, j'allais me sentir mieux le lendemain. Même entêtement, chez Véronique Marchand. « Je suis une gigantesque tête de cochon, dit-elle, en ajoutant que ce défi est devenu un mode de vie. J'aime ça, me lever à 4h30, prendre mon café tranquille, partir marcher, penser à ma journée et revenir à la maison pour gérer le branle-bas de combat. » Contre-productif. Même si ces défis sportifs entraînent des améliorations physiques, rappelle la kinésiologue Jasmine Paquin, la clé du succès est la constance. Il y a des bénéfices, comme améliorer sa force, son endurance musculaire et sa capacité cardio-respiratoire, surtout lorsqu'on est sédentaire au départ. Toutefois, il faut garder en tête que les bénéfices obtenus seront spécifiques au type d'activité réalisée et que ces bénéfices ne seront pas maintenus s'il y a un arrêt de l'activité après 30, 50 ou 100 jours. On ne peut pas condenser le sport dans un bloc de temps défini pour passer à autre chose ensuite. L'important, c'est de bâtir à long terme, affirme Jasmine Paquin. Le psychologue sportif Bruno Ouellet, qui a travaillé avec plusieurs Olympiens, croit que la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort » est inadaptée. « Je suis fervent de plus petit, plus constant, plus longtemps, soit d'en faire un peu de façon régulière sur une longue période », dit-il. C'est vrai pour l'activité physique et plusieurs autres habitudes. Il convient cependant que certains de ces défis peuvent être intéressants au début d'un cycle, comme en janvier. Même si les gens jugent souvent les résolutions, on remarque que 20 à 25% de ces habitudes tiennent la route. Véronique Marchand prévoit d'ailleurs de se lancer un défi similaire de la mi-janvier à la mi-juin. À une différence près, elle s'offrira une journée de congé par mois. C'était Des défis sportifs en continu, une bonne idée, un texte de Samuel Larochelle, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse.
Comprendre la dynamique des feux de forêt, un texte de Valérie Levé, paru dans la revue Quatre Temps au printemps 2021. S'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de forêt sans feu. Or, quand il brûle, un arbre, laissent des traces qui plongent dans le passé et qui peuvent nous aider à planifier le futur. Les branches d'un arbre en flammes laissent échapper de sombres nuages formés de charbon qui s'élèvent vers le ciel puis retombent. S'il survit à l'incendie et poursuit sa croissance, l'arbre pourrait aussi garder une cicatrice du passage du feu. Charbon et cicatrices sont des indices inestimables pour reconstituer l'historique des feux de forêt. Les feux au fil des siècles. Pour trouver ces cicatrices, il faut sillonner la forêt. De 2005 à 2008, Dominique Arsenault, professeur d'écologie forestière à l'Université du Québec à Rimouski, a arpenté avec ses étudiants 340 km le long de la route menant de la baie James à Radisson. C'est le domaine de la taïga, une forêt d'épinettes noires et de pins gris, trop clairsemée pour être exploitable commercialement, ce qui ne l'empêche pas de brûler. Au contraire, le climat plus sec de la taïga favorise le départ des feux et leur expansion, d'autant plus qu'à cette latitude, la Société de protection des forêts contre le feu intervient peu pour les éteindre. Il y a près de 10 fois plus de feux ici que dans la forêt commerciale. Ils y sont plus fréquents et plus sévères, explique le chercheur. Pour une recherche systématique des cicatrices de feu, la forêt qui longe cette longue route a été découpée en 160 cellules d'environ 1 km de large sur 2 km de long. Pour une cellule de 2 km carrés, on marche facilement 4 ou 5 km. Donc, pour 160 cellules, on a marché près de 800 km, estime Dominique Arsenault. On s'arrange pour y aller avant les mouches. On imagine aisément la satisfaction de découvrir un arbre, vivant ou mort, portant sur son tronc une ou plusieurs cicatrices de feu. Il reste alors à couper une rondelle dans le tronc à travers la cicatrice et à compter les anneaux de croissance depuis la dernière cicatrice et entre les cicatrices successives. Ça nous permet de dater non seulement le dernier feu, mais aussi tous les feux successifs des 200 dernières années et donc les intervalles de temps entre deux incendies, précise le chercheur. À la lecture des cernes, il s'avère que les courts intervalles de temps entre deux feux sont rares. Une jeune forêt qui relève tout juste de ses cendres a donc moins de risques de brûler à nouveau qu'une forêt passée au feu il y a plus de 50 ans. Concrètement, chaque année, le risque d'incendie est de 1% pour une jeune forêt de moins de 20 ans, alors qu'il monte à 5% pour les arbres de plus de 50 ans. Après un feu, il y a beaucoup moins de combustible. On peut donc penser que la forêt a moins de risque de brûler tant qu'elle n'a pas atteint un certain degré de rétablissement, ajoute Dominique Arsenault. Connaissant l'âge des peuplements forestiers, il devient possible d'établir des cartes de risque de feu, ce que fait le chercheur, en collaboration avec Ouranos et Hydro-Québec, en vue de gérer le risque d'incendie autour des infrastructures hydroélectriques. Que les jeunes forêts soient moins à risque de brûler est une bonne chose pour le maintien des écosystèmes, car si les feux se succèdent trop rapidement sans laisser le temps aux arbres d'atteindre la maturité, la forêt n'a pas le temps de se régénérer. Or, il faut respectivement 15 et 30 ans au pin gris et à l'épinette noire pour devenir mature. Si les changements climatiques augmentent la fréquence des feux et abaissent l'intervalle entre deux feux sous les 15 ans, la forêt pourrait ne plus se régénérer. Les feux au fil des millénaires. Les cicatrices de feu se heurtent à une limite temporelle. L'espérance de vie des arbres qui est de 300 ans au Québec. Au-delà, il faut se tourner vers la datation au carbone 14 des charbons tombés des branches et conservés dans le sol depuis des millénaires. Au Québec, cette approche a été appliquée pour la première fois par Serge Payette, professeur au département de biologie de l'Université Laval. Afin d'étudier la forêt à une cinquantaine de kilomètres au nord de Havre-Saint-Pierre, Pierre-Luc Couillard, la reprise pour son doctorat effectué sous la supervision de Martin Lavoie, professeur au département de géographie de l'Université Laval. Là-bas, la forêt est composée d'épinettes noires et de sapins baumiers. Le doctorant voulait reconstituer l'historique des feux et leur influence sur la composition des forêts. Il a donc comparé une pessière à sapins, c'est-à-dire une forêt d'épinettes ponctuées de sapins, avec une sapinière où dominent les sapins. Il y a des charbons de bois dans la matière organique de surface de la pessière. On savait donc qu'il y avait eu un feu relativement récent. Dans la sapinière, il n'y en avait pas, ce qui laissait présager que cette forêt n'avait pas été affectée par les feux depuis longtemps, explique Pierre-Luc Couillard. Pour en savoir plus, le chercheur a prélevé des carottes de matière organique et de matière minérale sous-jacente et les a tamisées pour recueillir les charbons de 2 à 4 mm de grosseur, soit la taille requise pour dater les charbons et pour identifier l'espèce, car le feu n'altère pas les structures du bois. Au microscope, sur des coupes de charbon, on retrouve les caractéristiques anatomiques. Les feuillus ont des pores pour acheminer la sève. Les conifères ont des trachéides. L'épinette a des canaux résinifères au centre du tronc, alors que le sapin n'en a qu'en surface, illustre Pierre-Luc Couillard. C'est ainsi que l'examen de ces petits grains noirs a révélé l'histoire de ces forêts. Elle commence il y a 9000 ans. L'examen anatomique des charbons montre que les deux secteurs étaient alors tous deux des pessières. La datation des charbons indique que les feux se sont succédés sur les deux sites au fil des millénaires jusqu'à moins 4400 ans. À partir de cette date, l'histoire des deux sites diverge. Le site de la pessière a continué de brûler épisodiquement, alors que plus aucun feu n'est enregistré sur l'autre site, qui est alors progressivement passé de pessière à sapinière. C'est vraiment l'arrêt des feux qui a permis aux sapins de prendre l'avantage sur l'épinette, de s'installer et de perdurer, commente Pierre-Luc Couillard. En l'absence de feu, quand la forêt reste dense et ombragée, le sapin, tolérant à l'ombre, prend la place de l'épinette. Inversement, l'épinette est mieux adaptée au feu que le sapin grâce à ses cônes qui s'ouvrent lors d'un feu et libèrent les graines. Tant que les feux se succèdent, l'épinette est favorisée. Cette reconstitution de l'historique des feux est utile pour la gestion de la ressource forestière. Conformément à la vision de l'aménagement écosystémique des forêts, les coupes forestières doivent imiter les perturbations naturelles que sont les feux, les chablis et les épidémies d'insectes. Or, si les sapinières sont moins touchées par les feux que les pessières, les plans de coupe forestière doivent en tenir compte. De fait, à la forêt Montmorency, ils ont développé des coupes partielles dans les sapinières parce qu'il y a moins de perturbations. Des coupes totales dérogeraient de la dynamique naturelle de ces peuplements. Convient Pierre-Luc Couillard, devenu ingénieur forestier à la direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Plongés dans les lacs, les charbons de bois du sol seuls ne suffisent pas à révéler toute l'histoire. À cause du renversement des arbres, le sous-sol minéral est chamboulé et les charbons se retrouvent sans dessus-dessous dans la carotte. La stratigraphie n'est d'aucun secours et on doit dater beaucoup plus de charbon pour reconstituer un historique de feu. Le coût de la datation au carbone 14 impose alors sa limite. À l'inverse, les charbons emportés par le vent qui se déposent dans les lacs s'intègrent aux sédiments avec tous les avantages de la stratigraphie. Dans une carotte de sédiments lacustres, les feux successifs sont alors révélés par des couches de charbon. En dénombrant les charbons d'une couche, il est possible d'estimer la sévérité du feu. De plus, si on a deux strates de charbon dans la colonne de sédiments, la distance entre les deux strates correspond à l'intervalle de temps entre les deux feux, décrit Yves Bergeron, professeur à l'Institut de recherche sur les forêts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Si l'on connaît la vitesse de sédimentation, il est possible d'estimer l'intervalle de temps entre les feux. Pour une datation absolue, il suffit de prélever et de dater au carbone 14 quelques restes végétaux fossilisés pour placer les repères temporels dans la carotte. En outre, ces restes végétaux et d'insectes présents dans la colonne fournissent des indices pour reconstituer la végétation et le climat. Si on voit des insectes ou des pollens d'espèces tempérées datant de 6000 ans, ça nous dit qu'à cette époque-là, le climat était tempéré, illustre Yves Bergeron. Au fil des ans, Yves Bergeron et son équipe ont prélevé des charbons dans une quarantaine de lacs de la forêt boréale. L'intervalle de temps moyen entre deux feux indique qu'il y a toujours au moins 30 % de forêts centenaires. En conséquence, si l'aménagement écosystémique vise à reproduire les perturbations naturelles, une forêt ne devrait pas être coupée systématiquement quand elle atteint 100 ans. Il faut laisser les vieilles forêts si on veut conserver un paysage naturel, estime Yves Bergeron. Dans chaque lac, les charbons racontent une histoire de feu différente. Pourtant, toutes ces histoires montrent deux points de convergence. En comparant tous les lacs, on voit des variations régionales, mais on a pu identifier deux périodes vers moins 4800 et moins 1100 où ça a brûlé partout. Cela semble être lié à des moments où la température était très élevée, résume Yves Bergeron. C'est ce qui lui fait craindre que les feux de forêt ne s'intensifient avec le réchauffement climatique et que la forêt ne parvienne plus à se régénérer entre deux feux. En plus de raconter une histoire pluriséculaire, l'analyse des cicatrices de feu et des charbons livre des indications pour la gestion forestière et suggère que les feux pourraient s'intensifier à l'avenir. Pour bien préparer l'avenir, l'adage ne recommande-t-il pas de savoir tirer les leçons du passé? C'était « Comprendre la dynamique des feux de forêt », un texte de Valérie Levé, paru dans la revue Quatre Temps au printemps 2021.